Bienvenue au monde de la course, les nouvelles de la course. Cette semaine, au menu, nous commençons tout d'abord à faire un petit retour sur une de nos invitées précédentes, Annick Besseau, la nutritionniste. Dans le fond, au moment de l'entrevue, elle voulait pas se prononcer à 100%. Elle était pas mal sûre de son opinion, mais elle voulait pas se prononcer à 100% pour pas nous induire en erreur, et elle a fait ses recherches après. Dans le fond, la question que j'avais pour elle était est-ce que c'est important de manger des glucides tout de suite après avoir fait un entraînement? Et dans le fond, la réponse est, à moins que tu sois un triathlète qui fait comme 1 million d'entraînements par jour, ou que tu es vraiment dans une phase d'entraînement vraiment extrême puis tu as besoin de récupérer rapidement, non, ce n'est pas nécessaire. Oui, tu vas beaucoup absorber beaucoup plus rapidement les glucides si tu les prends à l'intérieur de 15 à 30 minutes après l'exercice. Mais c'est pas nécessaire si tu cours une fois par jour puis que c'est pas trop intense, puis tu as quand même un bon temps de récupération en chaque. Tu as le temps de remplir à nouveau tes réserves de glycogène. Mais si vraiment là tu veux être prêt pour le lendemain matin, tu viens de faire un gros workout de soir, puis le lendemain matin, tu en as un autre gros, c'est idéal de prendre tout de suite après. Et ça nous vient c'est la position de la American Dietetic Association et Dietitians of Canada et le American College of Sports Medicine. Vous pouvez aller retrouver ça. Et c'était le titre du paper, c'est ça, Position of the blablabla que je viens de dire, Nutrition and Athletic Performance, puis ça date de 2009, donc pas parfaitement récent, mais c'est quand même l'opinion de tous les gros boards ensemble qui disent que c'est pas nécessaire, à moins vraiment que tu aies un gros entraînement qui suit. Ensuite, on fait un petit retour sur notre concours Brittany Runs Marathon. Dans le fond, les gagnants ont été sélectionnés jeudi soir à 22h. Dans le fond, on avait initialement Robert Sitt et Sam Rodriguez qui avaient été choisis au hasard avec un chiffre, un random number generator. Robert Sitt a accepté l'offre et Sam Rodriguez, malheureusement, n'était pas disponible pour la soirée de la première qui est ce mercredi soir. Il a passé ses billets, donné ses billets au suivant. Et Olivier Roy-Bargeon, qui était le troisième, a lui aussi donné ses billets au suivant. Donc, c'est Alexandre Pratt qui a accepté. Donc, félicitations aux gagnants du concours Brittany Runs Marathon. Je les verrai accompagnés de Sophie à la première ce mercredi. Désolé, Phil.
Désolé.
C'est pas grave. Et c'est ça, on a avec nous Phil Blackburn. À qui j'avais donné un petit shout-out au courant du dernier épisode. Dans le fond, Phil, tu faisais le demi-marathon de la Chine. Et ça, je savais que t'avais dit que t'avais l'impression que ça devrait bien aller. Ça a l'air que c'est bien allé. Vraiment, l'entraînement va de bon train. Les résultats le montrent. Tu l'as dit, tu as fait 1:39.19. Avant ça, ton meilleur temps était de 1:47.58 au demi-marathon d'Amsterdam. Mais tout d'abord, peux-tu nous donner une idée à ceux qui viennent de commencer? Puis ça, c'était quand même ton record personnel qui datait d'un bon bout. Il datait de quand ce record?
2015.
De 2015. Fait qu'un record vieux de 4 ans, fait à Amsterdam dans des conditions idéales, un parcours plat, température parfaite. C'était quand même très plat à la Chine, mais il faisait quand même un petit peu chaud, surtout vers la fin. D'abord, ça fait combien de temps que tu cours puis que tu cours plus sérieusement?
Je dirais que je cours plus sérieusement depuis peut-être 5 ans. Mais là, dans la dernière année, disons que j'ai consacré plus de temps à la course à pied. Avec le club Endurance, j'ai l'impression d'avoir augmenté mon niveau. J'ai plus l'impression d'être endurant depuis mon entraînement cet hiver avec Endurance.
Ouais. Mais là, tu t'es mis avant, tu faisais quoi? Tu n'avais même pas d'entraînement spécifique, tu faisais juste courir. Puis là,
Exactement.
maintenant, tu fais deux entraînements semaine avec l'équipe de la boutique Endurance. Dom Royer, c'est ton coach, je pense?
Exactement, mais là j'ai pris un petit congé d'été. Mais cet hiver, là, j'avais deux fois des intervalles par semaine, une fois avec l'Université de Montréal, puis une fois avec Dom Royer d'Endurance. Puis sinon, c'était des longues distances, que ce soit tout seul ou avec Endurance le dimanche matin. Puis là, j'en vois vraiment les bénéfices là, en ce moment, là, cet été, là, quelques mois plus tard, là, je vois
Hard
vraiment la
work
différence.
pays.
Exactement. Puis je peux me pousser plus fort dans les entraînements maintenant. Puis je pense que moi, je suis vraiment content de moi. C'est sûr qu'il y a eu l'entraînement, mais il y a aussi les souliers qui ont fait de la différence.
T'avais ces souliers-là, mais dans une autre couleur, les Razor 3,
Exactement.
placement de produits subtil.
Ouais.
Mais c'est ça, dans le fond, ça fly, c'est léger.
Puis,
C'est bon, là.
placement de produits avec les Skechers, les Go Run
7,
7. Ça, je
pour
m'entraîne
l'entraîner.
plus, longue distance. Fait que bravo à Skechers. Puis,
Mais bravo à toi. Puis toi, dans le fond, avant, tu sais, toi, t'es un coureur de 4 heures au marathon, là, tu sais. Puis, mais
dans
là,
le fond,
là, ça
marathon
risque de
Montréal,
descendre.
4 heures.
Puis ça fait longtemps, t'as jamais brisé le 4 heures.
Ben, c'était mon premier.
Ouais, c'est ton premier sous 4 heures à Montréal l'année
Puis
passée.
là, j'ai fait 3h53 en France en avril. Puis là,
Puis là, c'est
ben.
quand tu commençais à t'entraîner pour de vrai.
Ouais,
Ben,
exact.
encore plus pour de vrai, tu sais.
Exactement. Puis idéalement, 3h45 en septembre avec Marathon Montréal. Fait que, avec toi qui va flyer.
On va voir,
idéalement.
on espère.
Mais
Mais ouais, c'est ça. Fait que comme quoi que l'entraînement pay off, les souliers aident peut-être aussi d'avoir des bons souliers pour la course. Là, ça fait surtout pour la course, je dirais, le jour de la course, ça fait une crème de différence d'avoir des souliers légers que tu sens que tu
Exact.
fly avec. Ça fait une bonne, surtout sur un demi-marathon, là, ça, peut-être sur un 5, tu peux t'en sortir avec des souliers de merde un peu, mais mettons un demi-marathon, tu vas avoir des souliers qui vont vraiment de retourner l'énergie. Puis t'avais dans ton petit post Facebook, t'avais dit tu te sentais comme une fusée.
Ouais, exactement. Je m'étais jamais senti comme ça avant. Je pense que le feeling était vraiment bon. Puis j'ai couru aussi avec une collègue du club Endurance. Puis ça aussi, on s'est super entraidés l'un l'autre.
Un petit shout-out, c'est
Puis
quoi son nom?
Mariana, merci. Puis ouais, c'est ça. C'était vraiment le fun. Bravo à la Chine. Bravo à toute l'organisation. C'était super.
Good. Puis aussi au demi-marathon de la Chine, on a eu un record du monde. Un record du monde de demi-marathon en poussant un wheelchair, un fauteuil roulant. Et là, il y a du monde qui me dit comment ça se fait qu'il y a le record? Parce que il a fait ça, Julien Pinsonneau a fait ça avec un temps de 1:23:52, quand même très rapide. Mais il y avait mon coach, j'étais comme, mais là, ça marche pas parce qu'il y a un gars qui a un record, Callum Neff, il a fait le record avec une poussette en 1:11:27, mais là, c'est des catégories différentes. Poussette est une catégorie différente de fauteuil roulant. Donc, le record pour le fauteuil roulant était autour de 1:29, je pense, ou 1:28. Donc, il était beaucoup plus atteignable. Mais là, mettons. Une poussette, là, faire une 11-27 en poussant une poussette, quelque chose, c'est un motivé, c'est un Callum Neff
Mais
qui a fait ça.
est-ce qu'une poussette, c'est un enfant, puis un fauteuil roulant, c'est peut-être plus
Ouais, ça fait, c'est sûr que ce fauteuil roulant, ben, je sais pas si ça spécifie le poids de la personne dedans, mais c'était fait avec un Cartus, donc qui est vraiment un. C'est pas un fauteuil roulant d'hôpital, c'est un fauteuil roulant qui est fait pour rouler, là, donc c'est fait pour la course. Mais tout de même, j'ai oublié ça déjà, un 1:23:52, quand même pas peu, surtout dans la chaleur qu'on a à Montréal. Quand même, chapeau à Julien Pinsonneau qui a maintenant un record Guinness
Yeah,
à sa
quand même.
ceinture.
Félicitations.
Maintenant, on va retourner sur le Ironman du Mont-Tremblant. Je vais donner un petit. Tout d'abord, on va dire les résultats des femmes. Du côté des femmes, en première position, Carrie Lester, 8h48-26. Deuxième, Sarah True, 9h04-31. Et Jodie Robertson, 9h16-16. Aucune Québécoise, ou à ce que je sache. Bref. Le côté gars, là, c'est ça qui était assez excitant. On avait mon ami que je me suis entraîné avec dans le temps, mais là, il a vraiment crashé. Il est, dans le fond, Antoine Jolicoeur Desroches, que je m'entraînais avec lui
Oh.
au Cégep André-Laurendeau dans le temps.
Okay.
Il était plus rapide que moi. Lui, c'était notre troisième coureur. Moi, j'étais le quatrième de justesse. Et que lui, c'est ça, maintenant, il est rendu un triathlète professionnel. Et il s'est essayé au Ironman Tremblant. Et en sortant de la nage, il menait. Mais la nage est sa force. Et ensuite de ça, au vélo, il s'est fait rattraper par Sanders et par Cody Beals. Et là, au marathon, c'est là qu'il a craqué. Mais il s'est essayé. Il l'a dit dans son petit post Facebook après qu'il voulait vraiment essayer de faire un podium à Mont-Tremblant, qui est son Ironman, le Ironman du Québec et du Canada. Je pense pas qu'il y en a de plus gros au Canada. Il s'est essayé, mais il a cassé très très solide au marathon. Mais bon, faut essayer. Puis il s'inscrit à un autre Ironman, vu se réessayer. On lui souhaite bonne chance pour ça. C'était un bon duel entre Lionel Sanders et Cody Beals. Lionel Sanders qui avait eu une bonne avance sur le vélo, parce que c'est sa force, le vélo. Mais finalement, c'est Cody Beals qui a réussi à avoir Lionel Sanders qui a craqué autour du 30e kilo du marathon. Vraiment craqué solide. Ça, c'est triste à voir le dernier 12 kilos commencer. C'est tough. C'est Lionel Sanders qui était un favori, qui revenait d'une blessure, par contre. Mais il y a une grosse fanbase. Mais chapeau à Cody Beals qui a réussi, qui a pas abandonné, même si Sanders a une grosse avance sur lui avant pendant le vélo. Il a réussi à l'avoir à la course. C'est ça. Alors, chapeau. Lionel Sanders et Cody Beals sont des athlètes Skechers. Et Nathan Killam finit troisième. Les temps 7,58 pour Cody Beals, sub-8, ce qui est un record de parcours, ce qui est très rapide pour un Ironman qui est pas rapide pantoute, le Mont-Tremblant. Lionel Sanders 8,05,38. Nathan Killam 8,29,15. Maintenant, on passe au résultat du demi du 15 kg Rougemont, qui était le championnat provincial de 15 km. En cinquième position, Annie Laperle 58-20. Bianca Prémont 58-10. Quatrième, médaille de bronze, Pia Némé 58-06. J'ai bien vu au finish, c'était un duel entre les deux coéquipières, Pia Némé et Bianca Prémont. Mais Pia qui a triomphé. Sabrina Saint-Gelais 57-25. Sabrina qui est maintenant très bien placé dans le circuit de la Coupe Québec, mais qui sait si Maggie se pointe aux 10 km de l'Université Laval, elle sera mieux placée parce que Maggie a remporté les deux premières jusqu'à présent. Ça va être intéressant de voir les scores une fois haut des scores cumulatifs avec tous les pointages, mais c'est ça va, on sera seulement aux 10 km qui va remporter la Coupe parce que ça va jouer entre Sabrina et Maggie. Mais ça va dépendre si Maggie finit, fait le 10 km. Parce que pour la Coupe Québec, c'est les trois meilleurs temps des quatre épreuves. Mais si t'as juste deux temps, c'est sûr que t'as aucune chance de l'emporter. Mélanie Mirand d'Athlétisme Ville-Marie qui remporte bien devant la compétition 52-39,7. 52-41 temps officiel. Elle avait un bon 5 minutes d'avance sur la compétition. Mélanie dominante. Finalement, côté masculin, cinquième position, Jean-Pierre Morin, 50-30. Alexis Lavoie-Gilbert, quatrième, 49-11. Anthony Larouche, 47-42. Et il s'est fait devancer de très près au sprint par Vincent Ohamé. Les deux jeunes pères qui sont affrontés puis qui voulaient être le meilleur père du 15 kilos. C'est Vincent qui a été le plus rapide. Finalement, j'ai remporté en 47-15. Ça me positionne très bien pour la Coupe Québec. Mais tout va se jouer vraiment aux 10 kg. Si j'ai un très mauvais résultat, si je finissais pas par exemple et que Anthony Larouche peut-être réussissait à faire un très bon temps, ça pourrait, on ne sait jamais, il pourrait me devancer au score. Lui qui a déjà fait des très bons points aux 15 kg et aux 5 kg. Ça risque d'être des temps très rapides. On va avoir des joueurs rapides. On va avoir Thomas Fafard qui va être là. Et j'ai aussi en exclusivité, je le dis pas publiquement, mais je sais qu'il y a quelqu'un de très rapide qui pourrait être là aussi. On attendra l'annonce officielle pour l'annoncer officiellement. Mais ça risque d'être toute une bataille. Bien hâte de voir qui va triompher à Québec. Est-ce que je vais pouvoir réussir à faire le Grand Chelem ou non? Donc de remporter les quatre épreuves provinciales. Ça va être. C'est là qu'on va le voir.
Elle est quand cette course?
C'est dans 2 semaines. Dans deux semaines.
Ça va être en live? Ça va être live jusqu'ici?
Je pense pas.
Ah
Mais on
non.
pourra voir ça sur Sportstats.
Ouais.
On te souhaite les meilleures des chances, François.
Merci, merci bien. Finalement, nouvelle internationale. C'est quand même un peu lié. J'ai fait un stretch, mais en tout cas, ça m'intéressait. C'est Race in Boden et ainsi que Gwen Berry, qui elle est une lanceuse du marteau, donc elle est reliée à l'athlétisme. Et donc, vu que on couvre aussi l'athlétisme, j'ai réussi à relier ça là-dedans. Mais bref, parce que c'est quand même toute une controverse. Dans le fond, Race in Boden, qui est un. Il fait du fencing, donc.
L'escrime.
Ouais, de l'escrime. C'est pour ça que je t'ai. cette émission. Qui fait de l'escrime, il était dans l'équipe d'escrime et qui a gagné la médaille d'or aux Jeux panaméricains. À Lima, et pendant l'hymne national, il s'est agenouillé pour protester, un peu comme les joueurs de football faisaient, Colin Kaepernick et compagnie, pour protester les inégalités, les injustices aux États-Unis, sous Trump, etc. Et là, lui, et ainsi que aussi l'athlète qui fait du lancer du marteau, Gwen Berry, ils ont eu une sentence de 12 mois. Donc ils peuvent pas leur équipe olympique, l'équipe olympique américaine leur impose, les empêche de participer à des compétitions pendant 12 mois. Ça leur permet quand même de faire les Olympiques, mais ils peuvent quand même faire les Olympiques, mais ils pourront pas du tout compétitionner. Donc c'est quand même rough parce que ils disent vous pouvez pas faire de protestation de gestes politiques ou religieux quand vous représentez votre pays aux Jeux panaméricains, aux Olympiques, etc. Qu'en pensez-vous?
Moi, je trouve que la suspension est surprenante, tu sais, dans le sens que s'ils ne veulent pas que ce soit, que ça se reproduise, qu'ils permettent les Jeux olympiques à ces athlètes-là, c'est quand même un double message envoyé un peu, là. Dans le sens que,
Donc, tu penses que c'est pas assez sévère?
ben, je sais pas, pour eux, ça a l'air d'être extrêmement important de pas mélanger les deux, le sport puis les convictions personnelles, politiques. Dans ce cas-là, tu sais, l'objectif de la plupart des athlètes, c'est d'aller aux Olympiques, là. Ils leur laissent comme le bonbon finalement dans tout ça, tu sais. Puis leur coupe certaines autres compétitions. Je trouve que c'est surprenant comme choix dans tout ça. Peut-être qu'ils sont trop. C'est des athlètes extrêmement. C'est des piliers de l'équipe qui permettraient de. Je sais pas.
Ouais, ben
Peut-être que tu
ils
connais
ont
un
eu
peu
des
plus.
médailles aux Jeux panaméricains, donc c'est quand même du potentiel de médailles peut-être aux Olympiques, surtout en fencing, là, en escrime. Toi, qu'en penses-tu?
Moi, je suis un petit peu. J'arrive pas à déterminer si je suis pour ou contre de permettre des revendications sociales et politiques. C'est sûr que ça n'a peut-être pas sa place lors de grands événements, mais d'un côté, je trouve ça quand même sévère. Tu te demandes, est où la liberté d'expression dans tout ça, t'sais?
Ouais.
Mais je t'avouerai que je sais pas. J'ai de la misère à me déterminer de quel bord que je me trouve, pour ou contre.
J'aime ça faire marcher mes invités sur un fil de dentelle, un fil de soie dentaire, comme je le dis, comme des acrobates, des funambules. Moi, je les supporte à 100%, les athlètes. Moi, je dis dans 10 ans ou 20 ans, on verra à quel point ils avaient raison. On fait juste regarder ceux qui avaient fait le signe Black Panther ou je sais pas trop quoi, qui avaient levé le poing. Ça, c'était dans les années peut-être fin 70. Puis dans ce temps-là, ils s'étaient fait créer toutes sortes d'insultes, dire ben, la politique a pas de place aux Olympiques, blablabla. Bla, bla. Puis même, le pire c'est, dans tout ça, c'est cette image-là qu'on a, qu'on voit, dans le fond, les deux athlètes afro-américains avec le poing levé, qu'ils ont chacun un gant noir. Puis on voit l'autre à côté, il y a comme un troisième, un blanc, qui fait rien. Mais finalement, en fait, ce blanc-là, c'est un Australien. Et fait cocasse, c'est lui qui a eu le pire, en fait, dans cette histoire-là. Parce que lui, il leur avait passé son gant, dans le fond. Ils avaient pas trop, ils avaient pas de gants. Puis là, finalement, ils leur avaient chacun passé un gant. Fait que c'est pour ça qu'ils ont chacun dans une main différente, le gant. Et donc, dans le fond, lui, il les supportait autant. Donc, c'était pas juste un blanc qui était comme pris au milieu de ça. Non, il les supportait. Et parce qu'il les a aidés, c'est un des athlètes qui a été le plus persécuté. En fait, son association, l'association australienne, l'ont tellement... vraiment, c'est affreux le traitement qu'ils lui ont réservé. Il a, comme il a été empêché de représenter son équipe et tout ça. Il a été enterré dans les nouvelles. Il mentionnait pas son nom. Et finalement, il est mort pauvre, le gars, même si c'était un top aux Olympiques. Vraiment, un des plus, des athlètes les plus persécutés. Vraiment, c'est assez triste. Qui a pas tant de reconnaissance pour ça parce qu'on le voit pas sur la photo, mais vraiment, il est supporté à 100%. Et bref, c'est un geste politique. Mais selon moi, ça a totalement sa place. Parce que, ben, on sait dans ce temps-là. Dans ce temps-là, comme aujourd'hui, le traitement des Noirs aux États-Unis, si on regarde statistiquement la quantité qu'il y en a sur Death Row, donc sur dans le couloir de la mort, sont surreprésentés. Donc c'est clair, même si c'est pas clairement quelqu'un qui est ouvertement raciste, ben il y en a qui sont ouvertement racistes, mais même si c'est pas un racisme direct, j'ai l'impression qu'il y a quand même, dans le système de justice, il y a quand même un racisme subconscient, si on veut. Qui s'opère parce que statistiquement c'est pas normal la quantité. Puis il y a même des études qui ont été faites qui comparent les crimes commis là, parce qu'on pourrait dire ah oui mais c'est parce que les Noirs ils commettent des crimes pires ou quoi, mais non, tu regardes juste les crimes à crime égal quand même, souvent les Noirs s'en tirent avec des pires sentences. Et bref, selon moi, la situation aux États-Unis en ce moment qui est assez catastrophique sous Trump, bref, je les supporte. Et je donne un finger à l'association. Ben, ils font leur job techniquement, l'association. Je suis sûr un peu qu'il y a du monde dans l'association du Comité olympique américain qui s'en veulent de devoir faire ça, mais qui sont comme un peu obligés de passer ça dans leur mission statement. Mais en même temps, est-ce qu'il faudrait pas revoir ce mission statement? Peut-être que c'est les Olympiques qui le permettent pas, mais en même temps, on regarde toutes les Olympiques qui c'est politique. Si on regarde les Olympiques qui ont eu lieu. Je pense que c'était à Berlin ou est-ce à Munich, je pense que c'était à Berlin dans le temps d'Hitler ou je me souviens plus dans quelle ville, mais en Allemagne dans le temps d'Hitler, tout ça c'était ultra politique malgré tout avec Jesse Owens, tout ça. Donc bref, je leur donne mon chapeau et ils ont des balls of steel parce que lui ben il y a des couilles de fer et la fille ben elle fait le hammer throw. Donc, elle lance des boules en fer. Littéralement.
Exactement.
On va finir là-dessus.
Ouais.
Sur ce super jeu de mots. Merci d'être passé. Là. Je pense qu'on est un peu affecté par le gros repas qu'on a mangé puis la chaleur de la journée. Donc, je pense qu'on va prendre un petit nap pendant que toi, tu t'en vas souffrir un peu sur le Mont-Royal. T'entraîner pour ton marathon qui s'en vient. On te souhaite bonne chance pour ton marathon.
Merci beaucoup. Ouais.
On se reverra la semaine prochaine pour les nouvelles du monde de la course.
Yeah.